Aujourd'hui, à Rencontre, un spécialiste de Nietzsche, Pierre Boudot. Pierre Boudot est professeur à la Sorbonne. C'est un homme inquiet. Dans « Les vents souffleront sans me causer de peur », il a raconté comment son inquiétude l'a mené à bon port. Parmi ses autres livres, retenons « L'ontologie de Nietzsche », ce philosophe dont chacun sait qu'il a déclaré que Dieu était mort.
Pierre Boudot, vous êtes connu comme un spécialiste de Nietzsche, mais Nietzsche, pour la plupart d'entre nous, enfin pour ceux qui le connaissent tout au moins, est considéré comme un destructeur de la civilisation occidentale, comme un héros de la mort de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On s'est beaucoup trompé sur Nietzsche, et je crois qu'il est victime d'une série d'impostures et de contresens. D'abord, si je m'intéresse à lui, c'est parce que je crois qu'il est tellement immense que nous avons besoin de le comprendre pour pouvoir passer le cap de la civilisation de l'an 2000. Quel est le véritable problème de Nietzsche ? C'est un problème d'abord de langage. C'est dans un tout petit texte de 1871 que Nietzsche, qui était un philosophe allemand, habitant à l'écart de l'université, immolé sur l'autel de la civilisation occidentale, c'est dans un tout petit texte de Nietzsche que se trouve la clé du problème. Il dit que le langage est victime de l'anthropomorphisme. Nous avons réduit le langage à n'être plus que la représentation de nos petits désirs, de nos petits instincts, de nos passions. Et que le véritable problème, c'est de rendre au langage sa virginité, quelque chose qui ressemble assez au début de l'évangile johannique, au commencement était le verbe. Mutatis mutandis. À partir de là, il y a destruction dans la vision de Nietzsche de tout ce que les concepts apportent de représentation. Comment détruire un Dieu qui n'a plus de représentation ? On ne peut pas. La mort de Dieu, c'est la mort d'un Dieu qui avait été incarcéré dans les concepts. La mort de Dieu n'est pas chez Nietzsche quelque chose qu'il revendique, c'est quelque chose qu'il constate en disant c'est le langage de la civilisation qui a tué Dieu. Ce langage qui a tué Dieu, il faut lui rendre la vie. On peut dire, par conséquent, un tout petit peu, donc on va rendre la vie à Dieu. Et c'est un saut que Nietzsche ne franchit pas, mais qu'il laisse entendre par des points de suspension. Il y a une phrase absolument magnifique dans les posthumes où il dit « Enfant, j'ai vu Dieu dans sa gloire ». Il y a peut-être, il y aurait peut-être, un peu comme la vision d'Ostie pour saint Augustin, comme la première vision de Thérèse d'Avila, où la nuit d'illumination de Descartes, il y a peut-être là chez Nietzsche une direction à approfondir, mais c'est une tâche immense.
Comment vous êtes intéressé, vous, à Nietzsche ? Comment en êtes-vous venu à cette...
Oh, j'étais jeune. Je passais mon bachot, j'avais 18 ans, et j'avais découvert Zarathoustra, et je n'y comprenais rien du tout. Et encore aujourd'hui, plus de 30 ans après, je n'y comprends pas grand-chose, et pourtant, il y a dans ce texte une clé de l'œuvre de Nietzsche. Probablement, sa méditation sur l'éternité est un passage clé pour comprendre toute l'œuvre de Nietzsche, car il y a un hymne dans Zarathoustra sur l'éternité, « Car je t'aime, ô éternité », qui est certainement la clé de la méditation de Nietzsche sur le temps. Alors j'essayais, j'avais peur de mourir, ma mère était très malade et la mort rôdait dans la maison, et j'étais très sensible à tout ce qui permettait de réfléchir sur le temps, l'éternité, sur la mort. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert Nietzsche. Ensuite, j'ai fait mes études de philosophie.
Qui vous ont amené en Allemagne.
Qui m'ont amené en Allemagne, où se trouvait un spécialiste de Nietzsche, Karl Löwith, qui était un élève de Heidegger, et qui avait écrit de très beaux livres, d'ailleurs, sur Nietzsche, notamment un livre important qui s'appelle « De Hegel à Nietzsche », qui a été traduit en français.
Vous avez connu vous-même Heidegger ?
Ah oui, j'ai rencontré Heidegger une matinée entière. J'avais un rendez-vous.
Je vois un sourire tout à coup quand vous
parlez. Oui, parce que je vois toujours l'étonnement de l'ami qui m'accompagnait. Il faisait très froid et il m'a dit « Je t'attends ici un quart d'heure, 20 minutes ». Il m'a attendu 3 heures. Et c'est vrai qu'il était transi et que quand je suis sorti de chez Heidegger moi-même, j'étais tout à fait étonné d'y être resté si longtemps. Mais Heidegger voulait que nous parlions de Nietzsche. Alors il me parlait en allemand, je lui parlais en français. Et nous nous sommes comme ça très bien entendus. Et puis, chose tout à fait étrange, 2 jours après mon passage, il a annoncé qu'il allait publier son livre sur Nietzsche. Et il avait toujours dit qu'il ne voulait pas le publier. Et il aurait bien fait de ne pas le publier parce que c'était un mauvais livre.
Mais pour vous, qu'est-ce qu'a représenté Heidegger ?
Oh, c'était précisément le penseur de la mort. Et il y avait quelque chose, l'homme est l'être pour la mort, dit-il. Et il y avait là, pour moi, quelque chose de fascinant, une espèce de romantisme à l'envers. Une espèce de tuberculose de l'être. Une espèce de cancer de l'essence. Et j'ai été à un moment donné fasciné par tout ça chez Heidegger. Puis je m'en suis sorti.
Mais vous avez été très préoccupé par la mort. Dans votre ouvrage « Les vents souffleront sans me causer peur », une grande partie de votre ouvrage, en fait presque toute la première partie, est consacrée à la mort de votre mère. C'est un cheminement lent, progressif, vers la mort de votre mère. Et par ailleurs, la mort de votre père est pratiquement éclipsée, n'est-ce pas ? Elle tient très 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 peu de place. Et on a l'impression pourtant que vous étiez plus attaché à votre père qu'à votre mère.
Mais c'est vrai ça. C'est vrai ça, mais d'abord ce sont des choses qu'on découvre que quand ils sont morts tous les deux. Et puis d'autre part, c'est que la mort d'une mère, elle a quelque chose de tragique et de naturel. Il est presque naturel de voir la mère mourir. Le père, qui est un héros mythologique, ne peut pas mourir. Et je n'ai pas voulu voir mon père mort, un peu par respect pour l'image que j'ai de lui. Beaucoup par respect, essentiellement par respect.
Il y a un cri d'ailleurs étonnant dans ce livre, dans cette « Les vents souffleront sans me causer peur », c'est que vous dites que, contre Freud, que l'amour du père, ça existe.
Ah oui, les grands moments de mon enfance, je les dois à mon père. Certains des grands moments de mon adolescence, je les dois à mon père. Et même dans ses maladresses, enfin, quand je suis devenu jeune homme, je me souviens, nous étions partis à la campagne, mon père et moi. Et le lendemain, je ne sais pas pourquoi, nous avions donc passé la nuit. Mon père était un grand chasseur, alors je l'accompagnais de temps en temps. Et le lendemain matin, pendant qu'on prenait notre café au lait, il était 6 heures du matin, mon père m'a parlé de la vie adulte, brusquement, comme ça, pendant 5 minutes. Il m'a donné là quelque chose que je n'attendais pas de lui, avec une espèce de pudeur, parce que c'était difficile à un père de parler des choses de la virilité. Eh bien, brusquement, avant de partir à la chasse, il m'en a parlé. Et des grandes articulations, des grands moments comme ça dans mon enfance, j'en ai beaucoup. Même dans les colères de mon père qui étaient terrifiantes. C'était un être un peu wagnérien, un être
un peu nietzschéen peut-être aussi.
L'idée qu'on se fait de Nietzsche comme homme de la tempête, mon père était un peu comme ça. Et c'était un homme dont j'avais si peur qu'il y a quelque chose, et que j'aimais profondément, mais il y a quelque chose de sacré dans la peur qu'on a du père. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas eu envie de parler beaucoup de sa mort. Et puis, il est mort très âgé, enfin très âgé relativement, il avait presque 80 ans, et j'attendais de lui qu'il ait la force d'un tout jeune homme pour se battre, comme s'il avait 20 ans. Et j'étais un peu choqué de voir cette espèce de renoncement. Les enfants sont toujours très injustes, c'est une mort qui est intervenue il n'y a pas très longtemps, et j'étais aussi scandalisé que si j'avais eu 15 ans, et de voir mon père qui ne se battait pas, qui acceptait, parce qu'il avait fini ce qu'il avait voulu faire sur la terre. Et moi, j'aurais voulu qu'il se batte. Roland Aronceveau, quoi. C'est toujours la même chose.
Mais pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de raconter ainsi votre enfance, alors que vous voulez, semble-t-il, tout au moins c'est ce que vous dites vous-même dans les souffleront sans me causer peur, vous voulez vous-même protéger un certain secret, une certaine intimité, et puis vous nous livrez tout à coup.
Pas tout. Oh, j'ai pas tout dit. J'ai essayé de comprendre les moments les plus importants qui sont l'amour, la mort et la littérature. Et de telle manière que je n'étais pas du tout exhibitionniste dans ce livre. J'ai parlé des moments les plus significatifs, de la découverte de la musique avec ma mère, de la découverte de la nature avec mon père, et puis de la découverte de la mort avec la philosophie. Et ce sont en somme des hauts moments, tragiques et terrifiants, qui m'ont fait penser à cette phrase d'Abélard, dont je me suis servi comme titre. Vous savez, Abélard, le persécuté qui arrive à Cluny, où Pierre le Vénérable l'accueille, et qui écrit à Héloïse son dernier credo, qui est un superbe credo d'orthodoxie, et où il dit: maintenant j'ai tout dit, je vous ai tout dit, je vous ai tout confié, maintenant je vais probablement mourir, et les vents souffleront sans me causer de peur. C'est une phrase d'Abélard, elle est trop, j'allais presque dire, majestueuse, pour qu'un homme d'aujourd'hui, même s'il en avait eu l'idée, se permettre d'écrire cette phrase tout seul comme titre d'un livre. Je la rends à Abélard.
Mais Cluny, c'est aussi pour une part une figure très aimée de vous, puisque vous avez presque consacré un livre entier à cette figure des ruines de Cluny, de l'abbaye de Cluny. Au commencement était le Verbe. Qu'est-ce qui vous attache tellement à Cluny ?
D'abord, le fait que j'y habite m'a permis d'avoir accès à l'un des secrets de Cluny. Cluny n'est pas mort. Mais en même temps, d'avoir accès à l'un des mystères de notre civilisation. Comment cette abbaye, plus grande que Saint-Pierre de Rome, majestueuse, magnifique, synthèse de tous les arts, synthèse de toutes les pensées, carrefour de toutes les opinions, le lieu d'où de grandes décisions s'étaient prises pour l'Europe, pour les nations, etc. Comment cette abbaye a-t-elle pu disparaître, s'effriter, pierre après pierre? C'est quand même un grand mystère, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la naissance d'un lieu, il n'y a pas de hasard dans la naissance d'une résidence divine. Il y a, je crois, ce que Dieu veut. Alors, Dieu a voulu Cluny et Dieu a cessé de le vouloir un jour. Mais, à mon avis, il n'a pas cessé de le vouloir pour que Cluny disparaisse, mais pour que Cluny vive autrement, pour que Cluny réapparaisse ailleurs. Alors, mon idée, c'est que la mort de l'abbaye de Cluny, une fois qu'on a découvert Cluny et son importance, sacralise l'univers entier. Nous sommes aujourd'hui, nous-mêmes, l'abbaye de Cluny en marche. Partout sur la Terre, les croyants et même les non-croyants sont une sorte d'abbaye de Cluny, c'est-à-dire une rencontre mystérieuse entre le meilleur de la civilisation, le plus pointu de la culture, le plus mystérieux dans l'appel de Dieu. Nous sommes à nous-mêmes cette civilisation-là, ce carrefour, cette convergence, et nous ne le savons pas. Alors, en écrivant sur Cluny, je voulais simplement dire aux gens, n'ayez pas peur. J'ai été très étonné, très conquis par la phrase du pape le jour où il a été choisi, n'ayez pas peur. C'est une phrase qui court dans mon livre sur l'abbaye de Cluny. Il ne faut pas avoir peur.
La peur toujours. Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire peur?
Oh, mais tout me fait peur. Je prendrai simplement un exemple que beaucoup peuvent comprendre. Avoir des enfants, qui est la chose la plus merveilleuse du monde, est en même temps le lieu de la peur la plus terrible, parce que l'amour du père et de la mère est combattu par le milieu social, par le milieu extérieur. L'enracinement dans la culture est combattu par la pédagogie dans les lycées ou dans les écoles, par une certaine conception de cette pédagogie. Le refuge, ou bien l'apparence, ou bien l'apparition, ou bien l'enracinement dans un certain nombre de valeurs auxquelles une famille tient. Tout cela est nécessairement combattu. Il y a de quoi avoir peur. On ne sait pas. Un enfant, c'est un homme dont on ne sait pas ce qui reste quand il vous a échappé. Et c'est pour moi une peur considérable. Je vois mes enfants se diriger vers des études de différentes natures. Je me dis, est-ce qu'ils les ont vraiment choisis? Eh bien, j'ai un fils qui veut préparer Saint-Cyr. Mon père était officier. Alors je me dis, quelle est la filiation entre mon fils et mon père? Et ça ne peut être qu'une filiation profonde, étrange, mystérieuse, dont mon fils n'arrive pas à me parler par pudeur et dont il ne me parlera probablement jamais. Mais d'une certaine manière, j'ai peur. Je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Je n'en sais rien. Il y a de quoi avoir peur tous les jours de la vie quand on a des enfants. Et tout le monde en est là.
Et l'homme de notre civilisation, nos contemporains, nous-mêmes, nous sommes des êtres qui avons peur.
Mais il y a de quoi?
C'est sûr.
Ben, il y a de quoi. Enfin, quand un petit enfant naît... C'est pas la peine, on n'a pas besoin de faire beaucoup de politique pour constater ça. Quand un petit enfant naît, il pèse 10 fois son cercueil sur la Terre actuellement, parce qu'il y a de quoi tuer chaque homme de la planète 10 fois.
Et comment vous surmontez vos peurs?
Par l'écriture. Je n'exorcise jamais les peurs par l'écriture, mais quand j'écris un livre, je n'ai plus peur. Je surmonte ça parce que, d'une certaine manière, je suis plus un homme de tendresse que d'amour. Et la tendresse, c'est un sentiment très rare.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « je suis plus un homme de tendresse que d'amour »
Je vais vous dire. La tendresse, c'est un sentiment très rare qui a tous les tourments de l'amour, mais qui a la rigueur de l'amitié. Et qui est, par conséquent, ce sur quoi débouche l'amour et l'amitié quand on a fait le tour de tous les risques qu'on peut prendre ensemble. Alors, c'est ça que je veux dire quand je dis « je suis plus un homme de tendresse ». C'est un sentiment plus rare que l'amour et plus rare que l'amitié, et il en est aussi. C'est difficile à expliquer, mais je crois que c'est difficile d'habitude d'unir l'amour et l'amitié, parce qu'ils sont assez exclusifs à vivre l'un par rapport à l'autre, et la tendresse les unit tous les deux. C'est donc une somme d'expérience, de douceur, de secret, de mystère. assez exaltante à vivre et à découvrir.
Vous dites quelque part dans Les vents souffleront sans me causer peur, vous dites que vous tenez plus à la gloire qu'à l'amour.
Ah ça, oui, c'est quelque chose d'incompréhensible pour la plupart de mes contemporains. Je crois que la gloire est le but de l'homme sur la terre. Je crois, mais la gloire, c'est pas la notoriété, c'est pas le fracas, c'est pas la turbulence. La gloire, c'est l'histoire d'Horace. J'ai construit une œuvre plus durable que les reins. La gloire, c'est ce qui reste de l'homme lorsque il est mort ou sur le point de mourir et qui doit marquer sa trace sur la terre. On n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. Vous savez, le temps réel et biologique de la création, je le repousse au fur et à mesure que je vieillis, bien sûr, maintenant. Mais je me disais, au départ, c'est entre 25 et 40 ans, ce qu'on n'a pas fait à 40 ans. Puis après, je me suis dit, c'est peut-être 30 et 45. Puis maintenant, je me dis, c'est 35 et 50. Bien sûr, j'ai dépassé 50 ans. Alors, je me dis, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est quand même, je crois qu'après 50 ans, les premières intuitions fondamentales sont déjà exploitées. Et la gloire de l'homme, c'est la fidélité à ses premières intuitions contre vents et marées, contre la maladie, contre les turbulences de l'époque, contre la tendance à baisser les bras, contre la tentation du renoncement. Tout ça aide l'homme à accéder à la gloire. C'est une définition classique que j'ai de la gloire, c'est une définition un peu cornélienne.
Vous dites fidélité à ses premières intuitions. J'aimerais qu'on exploite dans le temps qui nous reste cette affirmation que vous venez de faire. Quelles étaient vos premières intuitions?
Les premières intuitions qu'on peut avoir, c'est d'abord l'intuition de l'amour. Je dirais que c'est l'intuition de la difficulté d'être. Ensuite, c'est l'intuition de la difficulté de n'être que celui qu'on est. J'ai toujours essayé de tout vouloir et c'est impossible.
Je veux tout tout de suite.
Je veux tout tout de suite. Et même je suis prêt à dire je veux tout, pas tout de suite, mais je veux tout. Et j'ai toujours tout voulu. Et je me suis toujours trouvé du coup face à des contradictions majeures entre l'amour et l'art, par exemple, entre la fidélité de l'amour et puis entre la liberté donnée par l'amour et la licence donnée par d'autres formes d'amour, j'ai eu à lutter. Et, par exemple, parce que j'ai, comme tout le monde, ma pente à la facilité. C'est plus facile de vivre comme ça que de vivre autrement. Ensuite, la tentation de n'écrire que pour moi et pour quelques amis et pour moi, publier un livre est un acte de courage. Je ne le savais pas. Un jour, j'ai découvert ça. Je me suis dit, mais oui, après tout, c'est aussi un acte courageux que de publier un livre. C'est pas simplement une réussite, entre guillemets. Ensuite, donc, parce qu'on se livre, on se donne. La crainte de ne plus rien avoir à donner. Voilà une chose qui m'a constamment habité. À quel moment est-ce que l'homme n'a plus rien à donner? Et qui est le moment de sa mort. Ensuite, il peut vivre. Je traverse un peu actuellement cette période-là. J'ai des idées de livres, mais je n'ai plus le courage pour l'instant de lutter avec les 30 premières feuilles blanches qui permettent à un livre de naître et d'avoir son point de non-retour. Et pour le moment, je manque de ce courage-là. Et je me dis, tu es mort. Et tous les matins, je me réveille en disant, si tu n'avances pas, si tu ne domines pas ce passage, tu es mort. Tu peux vivre jusqu'à 100 ans, tu seras mort. Et d'une vraie mort. On pourra ensuite saluer ma mort biologique, mais ça n'a plus d'importance, je serai réellement mort. Alors, l'intuition de toutes ces choses, sur le destin d'un homme, ça met mal dans sa peau pour dormir.
Vous avez parlé aussi de fidélité. Je voudrais vous demander, quelle est votre foi?
Ma foi religieuse.
Votre foi, et peut-être aussi votre foi religieuse.
D'abord par la foi religieuse, je crois en Dieu.
Par la foi.
Oui. Je crois dans un Dieu essentiellement d'amour et dans un Dieu foncièrement personnalisé. Je ne crois pas que Dieu passe forcément par la totalité des rites que nous apprenons, que nous recréons ou que nous recommençons périodiquement. Mais il y a dans le monde et sur la terre une telle force d'amour qu'il est impossible de l'expliquer sans la présence de Dieu. on entend dire parfois que nous arrivons vers l'apocalypse. Chaque fois que j'entends dire ça, voilà que j'ai un petit signe. L'après-midi, je trouve un acte extraordinaire de générosité. Et je me dis, c'est pas possible. Il y a plein de gens, peut-être, qui mériteraient l'apocalypse, mais il y en a tellement d'autres qui attendent de Dieu le bonheur, la joie et la tendresse. Ma foi en Dieu, c'est une foi en un Dieu qui accompagne la plupart de mes décisions, en un Dieu auquel je donne mes enfants tous les matins, en un Dieu auquel je donne l'amour que j'ai pour ma femme avec toutes ses maladresses, en un Dieu extrêmement personnel, intime, le Dieu de tout le monde, le Dieu du charbonnier, mais qui est en même temps le Dieu le plus rassurant par l'amitié qu'il a pour vous, et puis le Dieu le plus perspicace par la connaissance qu'il a de vous, qui permet de vous supporter vous-même au fur et à mesure que vous vous découvrez tel que vous êtes.
C'est important de vous savoir connu par Dieu.
Ah oui, c'est très important. Si Dieu ne me connaît pas, il n'y a pas de Dieu. Alors vous voyez que c'est important.
Comment avez-vous été fidèle à votre foi?
J'ai été infidèle à ma foi. J'ai eu une foi très petit enfant jusqu'à la mort de ma mère. Après la mort de ma mère, je suis entré dans de grandes tempêtes. J'ai cessé toute pratique religieuse et j'ai retrouvé la foi au fur et à mesure que je me mettais à apprendre à aimer mes enfants. Ça, c'est pas une grande confidence parce que c'est une expérience que la plupart des êtres peuvent faire. J'ai trouvé quelque chose de plus fort que moi qui m'a amené à me dire « Mais est-ce que ce ne serait pas le Dieu de ton enfance que tu as besoin de donner à tes enfants au fur et à mesure que tu découvres et leur amour et la manière de toi de les aimer ?» Et j'ai répondu par oui. Alors, avec mes enfants, et d'une certaine manière, ce sont mes enfants qui ont décidé de leur propre fidélité au Dieu que je leur donnais, au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Un tel à cause de la liturgie, un tel parce que le pape lui était sympathique, il avait que 10 ans, un autre parce que le christianisme, mon second fils disant que le christianisme avait le sens de la fête, et que c'était pour ça qu'il voulait devenir chrétien. Alors c'était une aventure familiale, une aventure conjugale, mais c'était une expérience de l'amour de redécouvrir cette foi. Et puis quand j'ai redécouvert cette foi, ben, j'avais cette foi 40 ans ou 40 ans passés, et j'ai regardé autour de moi et j'ai constaté que finalement, très peu de gens avaient le courage de dire qu'ils croient en Dieu. Ils attendent tous de se faire enterrer religieusement, mais la plupart d'entre eux tirent de telle ou telle activité politique ou syndicale la crainte de ne pas dire qu'il croit en Dieu. Eh bien, je me suis dit que c'était une chose toute naturelle et que si j'avais envie de le dire, je le dirais. Comme ça, je l'ai dit dans mes livres.
Vous avez dit aussi que vous vouliez libérer Dieu de ceux qui l'annexent.
Ah oui, oh oui, mais ça, c'est évident, ça. Libérer Dieu, j'en ai déjà touché un tout petit mot en disant que je ne pensais pas que Dieu passait forcément par la totalité des rites. Le rite, c'est quand même un apprentissage socio-culturel, hein. Et dans l'apprentissage socioculturel, il peut y avoir un certain totalitarisme qui ne s'avoue pas. Le Dieu de l'amour, c'est un Dieu personnel. Libérer Dieu de ceux qui l'annexent, c'est également le libérer en partie des théologiens, quels qu'ils soient. Les théologiens sont des gens qui pensent avoir le vrai sur Dieu. C'est quand même une chose absolument extraordinaire. Ils ont une culture sur Dieu, mais le vrai sur Dieu, personne ne peut l'avoir.
En fait, Dieu nous échappe toujours.
Toujours. Et c'est pour ça que c'est merveilleux d'être avec lui. Parce qu'on ne s'ennuie jamais.
Et pourtant, vous dites de vous que vous êtes un idolâtre.
Ah oui, parce que j'aime les grandes représentations. Dans mon enfance, j'étais fasciné par les grands messes pontificales. C'était du grand théâtre. Je suis idolâtre, mais pas seulement...
Mais vous savez très bien aussi que beaucoup de nos contemporains se sentent frustrés de ne plus avoir ce théâtre.
Eh bien, moi, je leur rendrais très volontiers. Je rentre de Rome. J'ai vu le pape la semaine dernière à son audience publique. Mercredi dernier, je suis allé lui remettre l'oratorio que j'ai écrit sur Thérèse d'Avila. Eh bien, c'est un homme dont la simplicité à elle toute seule est une liturgie du spectacle. Et il y avait 25 000 personnes sur la place Saint-Pierre qui arrivaient toutes à voir le pape à peu près. Et le pape ne s'occupait pas du tout de faire des effets. Il était là. Avec son sourire, il s'intéressait aux gens, un charisme extraordinaire. Quand il parle, les 25 000 personnes s'effacent d'un seul coup. On n'entend même plus la rumeur de la foule. Et ça, c'est un spectacle. C'est quelque chose qui est fascinant. J'ai assisté il y a 3 ans à la messe de minuit à Saint-Pierre à Rome, où le pape célèbre la messe comme un curé de campagne. J'avais l'impression d'être en Haute-Saône, chez moi, et d'assister à une messe du curé de ma campagne quand j'étais enfant, avec la même ferveur, avec la même simplicité à Saint-Pierre. Et sans grand panache et avec juste quelques diacres, c'était magnifique. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, la jeunesse va redécouvrir la beauté du grégorien, le rechanter, le transformer peut-être, mais inévitablement aller à Dieu par le chant. D'ailleurs, la preuve, le nombre de guitares qui arrivent dans les églises aujourd'hui, avec des jeunes gens pleins de ferveur, prouve bien qu'on retourne à Dieu par la musique.
Mais vous rendez-vous compte, Pierre Boudot, de l'itinéraire que vous nous avez fait faire durant ces quelques minutes. Nous sommes partis de Nietzsche. Et nous voilà tout à coup dans les églises avec une guitare et tout ça conduit par un professeur de philosophie à la Sorbonne. Comment vous le jugez, cet itinéraire ?
Alors, je ne peux pas le juger. J'arrive à faire le lien parce que c'est moi qui le vis. Je le juge contradictoire si je me mets à l'extérieur de moi-même. Mais si je me mets à l'intérieur de moi-même, c'est une manière de montrer qu'en voulant tout, j'ai quand même presque été capable d'avoir tout.
Presque était capable d'avoir tout. Donc il y a encore de la place pour le désir.
Ah oui, oh, bien sûr.
Quel est votre désir ?
La gloire.
Encore la gloire.
Elle s'achemine avec la création. Et la création, c'est ce qu'il y a de plus profondément humain en chacun d'entre nous. C'est pas du tout d'être une vedette, c'est pas ça, c'est pas cette gloire-là. Je ne pense pas à Johnny Hallyday. Je crois qu'il n'a pas la gloire. Il a la notoriété. Et ensuite, en plus de ça, il en est très malheureux. Parce que je suis persuadé qu'il pense à la gloire. La gloire, c'est tout de même d'avoir deviné dans son époque ce qu'il y a de plus tragique et d'en faire de la tendresse. Et c'est cette gloire-là que je voudrais avoir.
Pierre Boudot, je vous remercie.
Rappelons que Pierre Boudot, professeur à la Sorbonne, a publié, il y a déjà plus de 10 ans, l'anthologie de Nietzsche aux Presses universitaires de France. Il a publié récemment sur l'abbaye de Cluny « Au commencement était le Verbe » chez Grasset et une sorte d'autobiographie « Les vents souffleront sans me causer de peur » chez Albin Michel. C'est un livre étonnant qui permet de mieux connaître l'aventure de Pierre Boudot. Enfin, il a publié « La jouissance de Dieu » ou « Le roman courtois de Thérèse d'Avila » aux éditions libres Alliés, ouvrage basé sur les 7 étapes de l'aventure intérieure de la plus grande mystique de tous les temps.